Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Jean-François Plouffe d'Action Autonomie. Il nous parle d'autorisation judiciaire de soins, surtout le point de vue des personnes. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre nous amène son sujet, les enfants hypersensibles. Notre collaboratrice Catherine Stassin est aussi des nôtres. Elle nous parle des guides auto-soins, les avantages et limites. Tout ça dans le menu de Folie douce cette semaine. On commence bien sûr en chanson avec la chanson « Soyons-nous » de Laurence Martin avec King Melrose. Bienvenue à Folie douce.
Café, un peu froid, j'entends des gens s'aimer, tout sauf moi.
J'ai croisé son regard, plus d'une fois, est-ce vraiment le hasard?
Je ne sais pas. Soyons-nous, soyons fous, aimons-nous après tout, soyons
La santé mentale, c'est fondamental. Vous êtes au bon endroit, à Folie douce.
J'accueille notre collaborateur Jean-François Plouffe. Bonjour Jean-François.
Bonjour.
Bonjour. Aujourd'hui, tu nous parles d'autorisation judiciaire de soins, mais un peu du point de vue de la personne, en fait.
C'est ça. Les autorisations judiciaires de soins qu'on appelle aussi dans le milieu hospitalier les ordonnances de traitement.
Oui.
Donc ça, c'est une procédure qui est prévue par l'article 16 du Code civil qui peut permettre à un établissement de forcer une personne à prendre des médicaments ou d'aller vivre dans une ressource d'hébergement, mais sans son consentement, de façon contrainte. Et donc, ça aussi, c'est une mesure qui est, un peu comme la loi P38, une mesure sur les gardes en établissement, c'est une mesure d'exception. mais qui est, nous on le sait parce qu'on suit ça de très près, qui est utilisé de plus en plus fréquemment et qui devient de plus en plus routinière.
Et cet article-là, 16 du Code civil, existe depuis longtemps?
Oui, il existe depuis 1991, si je ne me trompe pas.
Oui.
En fait, c'est une bonne chose qu'il existe cet article-là, parce qu'auparavant, des gens pouvaient être médicamentés de force, mais sans aucun contrôle des tribunaux ou sans aucun encadrement juridique, ce qui fait que les médecins, les établissements avaient le contrôle complet, absolu et permanent sur les personnes qui décidaient de médicamenter de force.
C'est une problématique qu'on peut rencontrer, c'est-à-dire que les gens, des fois, qui ont une problématique de santé mentale, ne réalisent pas qu'ils ont peut-être besoin de soins. Donc, il y a peut-être un avantage à faire ça, mais j'imagine qu'il y a beaucoup d'inconvénients aussi, là.
Ben, c'est ça. En fait, c'est que effectivement, il y a des gens qui quand on obtient une autorisation judiciaire de soins, c'est parce que la personne refuse catégoriquement le traitement qui lui est proposé et aussi parce qu'elle est inapte à consentir. Mais nous, ce qu'on constate, c'est que souvent, le refus catégorique, d'abord, souvent, il n'est pas si catégorique que ça. La personne a des réserves, a des hésitations, a des questions et c'est perçu par les établissement comme un refus catégorique, c'est présenté au juge comme ça. Mais aussi, il y a des cas où les personnes ont déjà essayé les médicaments qui leur sont proposés et qui connaissent les effets secondaires qu'ils ont sur eux particulièrement, et c'est pour ça qu'ils refusent de les prendre. Puis les médecins, eux, disent, ben non, t'as tel diagnostic, à tel diagnostic correspond tel médicament, puis t'as pas le choix, il faut que tu les prennes, puis si tu ne prends pas de ton plein gré, ben, tu vas le prendre de force avec une obligation du tribunal.
Il y a plusieurs années, on parlait beaucoup, beaucoup, beaucoup des effets secondaires des médicaments. À ta connaissance, j'imagine que vous êtes au courant de ça, mais est-ce qu'il y a quand même moins d'effets sur les médicaments actuellement?
Non, ben les médicaments n'évoluent pas tant que ça. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle des vieux médicaments en psychiatrie. Il y a de la recherche qui se fait certainement là, mais il y a beaucoup de médicaments qui sont connus depuis de nombreuses années, puis qui ont toujours les mêmes effets secondaires. D'ailleurs, ils les ont pas chez tout le monde. Il y a des gens chez qui ils agissent très bien, puis ils ont d'excellents effets, puis bravo, ces personnes-là, ils prennent les médicaments, puis ils vont mieux, puis c'est le but qu'on recherche. Mais le problème, c'est que dans d'autres cas, ils ont des effets secondaires qui sont très bien connus, très bien documentés. Et malgré ça, malgré les cas où la personne va dire que le médicament ne lui convient pas à elle, ben on va dire ben il n'y a pas de solution de rechange, là, puis il faut que tu prennes ça. Alors que dans la réalité, il y en a des solutions de rechange, mais elles ne relèvent pas toujours de la pharmacologie.
Tantôt, tu parlais quand même que l'article 16 du Code civil, c'était une bonne chose que ça existe, mais qu'est-ce que la personne qui a à être confrontée à ça doit faire, justement?
Ben, en fait, la clé, c'est beaucoup la discussion avec le professionnel de la santé. Le problème, c'est qu'il y a des médecins qui sont très ouverts à parler avec les gens, puis à leur expliquer ce qu'ils leur proposent, etc. Mais il y en a d'autres qui ont une approche beaucoup plus expéditive et beaucoup plus autoritaire. Et comme on a beaucoup de difficultés à choisir son médecin, ben, c'est un petit peu une forme de loterie. On peut tomber sur un bon docteur, un bon psychiatre, ou sur un moins bon, sur un moins ouvert. Mais dans la mesure du possible, il faut discuter. Il faut annoncer une forme d'ouverture à certains médicaments. À moins qu'on soit vraiment opposé à la prise de toute médication. Il y a des gens pour qui c'est le cas. Ceux-là, il faut savoir qu'à ce moment-là, la marge de négociation est plus étroite, puis on risque de se retrouver avec une obligation. Mais si on est prêt à prendre certains médicaments et pas d'autres, peut-être une dose plus basse, etc., peut-être un médicament de substitution, ben il y a peut-être une marge de négociation qui permettrait d'éviter l'autorisation avant le jugement. Puis même s'il y a eu un jugement, cette marge de négociation-là, elle peut continuer d'exister. Parce que le médecin, il est discrétionnaire là, dans son administration de l'autorisation. Donc, il peut la gérer de la façon qu'il juge la plus adéquate. Là. Il n'y a pas d'obligation de donner un médicament. C'est une autorisation.
Donc le médecin pourrait comme un peu passer par-dessus le jugement. C'est un peu ça.
C'est ça. Si à un moment donné, un an ou deux plus tard, il considère que ce qu'il a demandé n'est plus requis, il peut très bien décider de l'arrêter ou de le modifier.
Ouais.
Mais souvent, ça va être au bénéfice de la personne. Mais c'est pour ça qu'il faut être capable de garder une bonne communication avec le médecin. Et évidemment, là encore, il faut se faire représenter par un avocat au moment de l'audience, parce qu'il y a des gens qui se disent « Je suis dans une situation tellement absurde, je vais expliquer ça au juge, puis le juge va comprendre, puis il va me donner raison. » Mais non, ça ne marche pas comme ça. Les personnes qui sont porteuses de diagnostics en santé mentale ont très, très peu de crédibilité auprès des juges. Donc, quand on s'en va en cours et qu'on n'est pas représenté par un avocat, on a toutes les chances que l'hôpital gagne et que la personne doive se plier là, à ce que demandait l'hôpital au départ.
Et c'est impressionnant pour tout le monde, la cour oui. et tout le système judiciaire et tout ça. Donc, à quelque part, c'est sûr qu'un avocat va aider, certainement.
C'est ça, parce que souvent, la personne va être portée, si elle n'est pas représentée par un avocat puis qu'elle est présente, à parler au mauvais moment ou à répondre à des choses qu'elle considère pas vraies, que le médecin vient de dire. Et là, ça va un peu irriter le juge parce que là, on n'est plus dans le décorum de la Cour de justice et ça enlève encore plus de crédibilité à la personne et ça fait qu'on va l'écouter moins attentivement quand ça va être à son tour de parler.
Qu'en est-il, Jean-François, des coûts des avocats? Est-ce que la plupart des gens qui ont ce genre de situation-là peuvent obtenir l'aide d'un avocat sans frais? Est-ce que ça existe?
Ben oui, effectivement, parce qu'on sait que une bonne proportion, en tout cas, des gens qui sont victimes de ce genre de procédure-là sont des gens à faible revenu. Les gens qu'on contraint dans le milieu de la psychiatrie, c'est souvent des gens qui ont peu de moyens, qui sont isolés socialement puis qui ont peu de revenus. Donc, ils sont effectivement souvent admissibles à l'aide juridique. Mais il peut arriver qu'ils ne le soient pas. Et s'ils ne le sont pas, là, ça devient beaucoup plus compliqué parce que l'avocat va exiger des honoraires, puis un avocat, ça coûte 250-300 $ l'heure, puis c'est des causes qui sont pas nécessairement très longues à préparer, mais si on veut aller en contre-expertise, etc., il va y avoir des frais très, très importants qui sont hors de la portée de la plupart des gens de la classe moyenne. Donc, ça devient, pour ces personnes-là, encore plus difficile de se défendre. Mais nous, ce qu'on constate, c'est que la grande majorité des gens sont des gens à faible revenu, sont des gens qui cumulent un peu toutes sortes de vulnérabilités, dont la pauvreté matérielle et sociale. Et oui, ils sont admissibles à l'aide juridique, mais encore faut-il qu'ils le sachent. Encore faut-il que quelqu'un les mette en contact avec l'aide juridique. Et c'est souvent le rôle que nous, on joue comme groupe de défense de droit, de dire aux gens, ben vous avez cette ressource-là qui peut vous aider gratuitement.
Oui, c'est très utile.
Oui. Et donc, il y a, comme je le disais tout à l'heure, dans une audience d'autorisation de soins, il y a deux preuves qui doivent être faites, celle du refus catégorique et celle de l'inaptitude à consentir. Et c'est important de distinguer l'incapacité à consentir et le désaccord qu'on peut avoir avec un médecin. Il y a un terme dans le milieu qu'on utilise souvent où on parle de l'inaptitude du désobéissant. Quand une personne n'est pas d'accord avec son médecin, on va tout de suite mettre ça sur le compte d'une inaptitude à consentir, alors que simplement, elle diverge d'opinion avec son médecin sur les symptômes qu'elle peut avoir ou le diagnostic qu'elle peut avoir, puis l'effet que les médicaments ont sur elle. Mais tout ça est un peu escamoté pour dire, ben voyez-vous, le fait qu'elle s'oppose au traitement que moi, avec tout mon savoir comme médecin, je lui propose, c'est la preuve qu'elle est inapte à consentir. Alors que c'est pas du tout une preuve. Il faut faire une preuve beaucoup plus substantielle que ça, là, qui comporte 5 volets.
Oui.
Comprendre la nature de la maladie, le but du traitement, les risques de ne pas se faire traiter, et le fait que la capacité à consentir pourrait être compromise ou non par la maladie. Donc, encore là, c'est assez complexe et c'est pour ça que c'est important d'être représenté par un avocat de façon à pouvoir répondre là, à l'argumentation des hôpitaux qui souvent est très simple et plutôt faible, on pourrait dire. Mais si la personne n'est pas accompagnée par un avocat lors de l'audience, elle ne sera pas en mesure de contourner et de défier un petit peu les prétentions de l'hôpital et le juge va donner raison à l'hôpital là, dans une très, très grande proportion de cas.
Est-ce que beaucoup de personnes, Jean-François, sont confrontées à l'autorisation judiciaire de soins? Est-ce que ça
il y en a de plus en plus. On avait des chiffres de 2009 où on parlait d'à peu près 300 personnes et on a refait le décompte pour l'année 2018. On approche tranquillement des 550-600 personnes. Donc, ça a doublé en moins de 10 ans. Donc, c'est une mesure qui, encore une fois, devait être exceptionnelle. Et là, on commence à voir qu'elle devient de plus en plus routinière. C'est souvent une espèce de continuum de la garde en établissement. On veut s'assurer que les médicaments qu'on a commencé à donner durant la garde en établissement, que la personne va continuer à les prendre sans qu'on ait nécessairement à faire un suivi psychosocial très, 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 très étroit avec elle. Elle est simplement obligée d'aller à l'hôpital tous les mois pour recevoir une injection. Puis, il faut aussi se dire qu'il y a des gens qui sont privés, en quelque part, de leur liberté de choisir leur milieu de vie. L'hôpital peut aussi obtenir de la cour l'autorisation de placer littéralement une personne dans une ressource d'hébergement qu'elle n'aura pas choisie. Et là, évidemment, la privation de liberté est encore plus grande. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que en 2018, à Montréal, à peu près 99 % des requêtes présentées par les hôpitaux ont été accueillies au moins partiellement. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a certains cas où il y a eu des désistements, où l'hôpital ne doit pas présenter sa requête finalement parce que l'avocat de la personne lui avait fait savoir qu'elle n'avait pas les bons arguments, puis plutôt que d'aller risquer une défaite en cours, l'hôpital se désiste. Mais quand elle présente sa requête puis que l'audience a lieu, on parle de 99 % d'accueil. Okay. Mais il ne faut jamais oublier que même si l'hôpital a été autorisé à faire le traitement, il y a toujours possibilité de discuter avec le médecin après quelque temps pour dire, bon, ben là, je l'ai pris, je vois les effets que ça sur moi, peut-être qu'on peut changer de médicament, diminuer la dose, etc. Puis, comme ça, il y a moyen, là, justement, de sur une base de... Ça repose entièrement sur le bon vouloir du médecin, mais il y a toujours possibilité de discuter puis de négocier les modalités de la prise du médicament.
Donc, en terminant, quelques secondes, Jean-François Plouffe d'Action Autonomie, on peut mentionner les infos, si on va savoir plus, justement, sur les ordonnances de traitement.
Bien, c'est ça, on peut toujours nous appeler par téléphone au 514-525-5060. Sinon, on a notre site Internet qui est toujours accessible, www.actionautonomie.qc.ca.
Merci beaucoup, Jean-François Plouffe, et à la prochaine.
Merci.
Au revoir.
Tu dis bonjour, tu dis merci, t'es toujours à l'heure au bureau. Le bien aimable, le bien poli, on te prend jamais en défaut. T'es pas du genre qui s'énerve, qui aime taper du poing sur la table, plutôt celui sur la réserve, qui tempère, qui calme. Combien de temps encore faudra-t-il agir comme ils aiment? Combien de bruit encore avant la couffaine?
Un jour tu diras stop, t'inverseras les règles, tu claqueras cette porte pour en ouvrir une nouvelle. Un jour tu diras stop, t'inverseras les règles, tu claqueras cette porte pour en ouvrir une nouvelle.
Faudrait être beau, faudrait être digne, faudrait être fort et puis fragile. Faudrait être comme elle, comme il, être belle, être in. Faudrait sourire même au pire, faudrait être docile et utile. Faudrait être monsieur tout le monde et en même temps être unique. Combien de temps encore faudra-t-il agir comme ils aiment? Combien de bruit encore avant la couffaine?
Un jour tu diras stop, t'inverseras les règles, tu claqueras cette porte pour en ouvrir une nouvelle. Un jour tu diras stop, t'inverseras les règles, tu claqueras cette porte pour en ouvrir une nouvelle.
un jour tu diras stop.
Jamais au bureau.
Nous sommes bien présents sur Facebook. Cherchez Folie Douce Radio pour nous trouver. Folie Douce, une communauté, une radio.
C'est maintenant le bloc Espresso avec Pierre Laporte. Et ton sujet, Pierre, c'est les enfants hypersensibles.
Exactement, oui. D'après, j'ai pris ça, ce sujet sur le site internet psychologie.com, un de mes sites préférés. Il y a plein d'idées là-dessus. C'est un site français. Et cette fois, c'est un article qui s'appelle « Ces quatre comportements qui montrent qu'un enfant est hypersensible ». Et c'est important de les identifier,
ouais.
Ces enfants-là qui sont hypersensibles, parce qu'on doit toujours dealer en bon français différemment avec eux.
Tous les enfants sont peut-être un peu hypersensibles, mais peut-être pas à un si grave niveau, peut-être, c'est ça?
Oui, il y a ceux qu'on appelle carrément les hypersensibles.
Les hypersensibles qui sont plus sensibles que...
Sensibles. Ça peut être une qualité,
ouais.
Mais il y a un mode d'emploi.
Il y a une façon de faire, puis une façon de conjuguer avec ça. Ouais.
Exactement. Ce qu'on nous dit sur le site psychologie.com, on nous dit « Les émotions d'un enfant doué d'une grande sensibilité découlent pour partie de tout ce qu'il ressent, pour partie de sa mémoire et de son imagination très vive, mais aussi de sa relation avec les adultes, en fonction de ce qu'ils expriment et partagent avec lui. Voici quatre comportements typiques d'un enfant hypersensible décrits par M. Saverio Thomas Sella dans son ouvrage « J'aide mon enfant hypersensible à s'épanouir » et c'est publié par les éditions Le Duc en passant. Ce M. Thomas Sella est docteur en psychologie et il est chercheur et écrivain. Il nous dit que le premier comportement d'un enfant hypersensible, c'est son imagination hors norme. La capacité à imaginer des mondes, des personnages, des histoires et même d'autres réalités est très développée chez les enfants hautement sensibles. Cette grande imagination, couplée à leur maturité intellectuelle, leur fait parfois préférer la compagnie des plus grands ou même des adultes. Ils disent s'ennuyer avec les enfants de leur âge et se détournent des conversations superficielles qu'ils trouvent sans intérêt. De ce fait, il peut également leur arriver de se sentir très seuls, en décalage avec leur famille ou avec d'autres enfants. Parfois, ils croient que s'ils étaient plus grands, leur existence serait plus facile, surtout si les adultes ne leur accordent pas assez d'attention. Pour mieux comprendre ce que vivent ces jeunes, prenons le temps de suivre Zoé dans son aventure d'enfant ultrasensible. Aujourd'hui, une jeune adulte, Zoé se souvient de son enfance. Elle nous dit « Unique enfant dans un monde de grands, je ne le trouvais pas si vaste, mais tellement captivant. J'étais seulement pressée d'y avoir accès. Quand je serai plus grande, était ma ritournelle. J'ai utilisé tous les subterfuges. Je me suis faite polie et obéissante, puis intéressée et curieuse. Quand je serai grande, disait-elle, recevait toujours la même réponse, tu ne peux pas comprendre, tais-toi donc, c'est pour les adultes, tu nous fatigues, etc. Il n'y avait jamais d'autres enfants à la maison, pas d'invitation ni d'anniversaire, juste eux et moi. L'enfant très sensible peut alors préférer cultiver son imagination déjà flamboyante. »
Ça peut être difficile, c'est ça, pour des fois un enfant unique. Là, souvent, ça arrive, des fois, se sent un peu seul parmi les adultes.
Si c'est un enfant unique, j'imagine que c'est encore pire.
Ouais. Ouais.
Elle nous dit « Timide, je me couchais sur la moquette et les écoutais. J'emmagasinais, je réfléchissais pour découvrir comment attirer l'attention de ces géants. Rien n'y faisait, donc je fuguais. Je filais courir dans la nature et fier squat, juché sur mon étalon imaginaire, et je courais, ou plutôt je volais de fable en fable, heureuse dans mon monde inventé de toutes pièces. Bien souvent, je tombais, je me foulais les chevilles, je me perdais pour n'en récupérer que des réprimandes ou des rires, ce qui était pire à mes yeux. Pour ne pas rester trop seul avec leur sensibilité et leur imagination débordante, ces enfants s'inventent des amis ou des sœurs et des frères, dans le cas d'enfants uniques,
ouais.
Évidemment. Heureusement, il arrive qu'un adulte ait l'intuition de ce qui peut aider l'enfant à dépasser ses difficultés, en développant sa confiance en lui et en ses capacités. Elle nous dit « Brindille prête à tomber au moindre souffle ». Elle nous dit « J'étais pourtant doté d'une rapidité étonnante à la course à pied. Un jour, mon prof de gym me dit calmement, avec un immense sourire bienveillant, « Hé, la gazelle, aimerais-tu entrer dans l'équipe des garçons pour courir le 60 mètres? » Je répondis sans attendre « Oh oui, s'il vous plaît, monsieur, oui. Cet homme, parmi d'autres, a changé le cours de ma vie. Je m'en souviens comme si c'était... » hier. En effet, si les qualités de l'enfant sont mises en valeur, s'il est encouragé à les cultiver et soutenu dans cette quête, il a de fortes chances de pouvoir surmonter ses peurs et se révéler à lui-même. Zoé est devenue maman à son tour. Elle sait à quel point sa petite fille a et aura besoin d'être comprise et rassurée, même si sa sensibilité et sa façon de l'exprimer peuvent paraître étranges ou incongrues aux grandes personnes qui sont devenues sérieuses, comme le pointe tendrement Antoine de Saint-Exupéry dans Le Petit Prince.
Oui, un très beau livre là, qui fait très réfléchir, beaucoup de sagesse dans ce
c'est vrai.
Livre-là.
Et un deuxième comportement de l'enfant hypersensible, c'est l'angoisse de l'abandon. Nous retrouvons très souvent et à tous les âges l'angoisse d'être abandonné ou rejeté. Elle peut être particulièrement vive pour un enfant hautement sensible s'il se sent très différent des autres et s'il souffre de ce décalage avec eux. Hélène, elle aussi jeune maman, se souvient. Elle nous dit « Je crois que ma peur la plus grande, celle de toute mon enfance, était la peur de l'abandon. Abandon par mes parents, par mes frères et sœurs ou par mes amis. Pour nombre d'enfants, cette frayeur est intense. » L'émotion peut devenir envahissante si l'enfant ne la comprend pas et ne sait pas quoi en faire. Mais je m'arrête ici, Yvan, et on continuera plus tard dans l'émission.
Oui, absolument, les enfants hypersensibles.
La santé mentale est toujours au cœur de notre quotidien. Nos chroniqueurs vous présentent leur sujet.
C'est avec plaisir que je reçois à nouveau Catherine Stassin. Bonjour Catherine.
Bonjour Yvan.
Bonjour. Alors, ta chronique aujourd'hui, tu vas nous parler des guides auto-soins.
Oui, c'est exactement le terme, peut-être, que vous avez entendu ces derniers temps dans les médias.
C'est comme une nouvelle mode, hein? On parle beaucoup d'auto-soins ou auto-soins, comme on fait un dépressoff, on n'en fait pas. Il y a des avantages, il y a des limites, j'imagine. Hein?
C'est... Exactement, et on en parle beaucoup, je pense, parce que pour la COVID, il y a un guide d'auto-soins que tout le monde peut trouver sur Internet en mettant tout simplement « guide auto-soins » en un mot, « auto-soins » pour la COVID, et puis ils vont trouver un guide. Et qu'est-ce qu'il y a dans ces guides, dans le fond? Dans ces guides, on nous explique, ben, pour ce qui est de la COVID, ce qu'est la COVID, ouais. Quels sont les symptômes principaux, quelles sont les mesures de prévention, quelles sont les coordonnées dont on a besoin si on sent qu'on n'est pas bien. Donc, dans le fond, on nous éduque sur ce qu'est la COVID et on nous permet d'un petit peu nous surveiller nous-mêmes sur une éventuelle maladie de COVID qu'on développerait.
Ouais. Bon. Le gouvernement n'a pas eu le choix de faire ça parce que tout le monde était isolé. Ça est venu quand même assez tôt, peut-être en
oui,
avril.
Oui, ils ont fait ça,
ça avait été mis
très
en ligne,
rapidement,
là,
en effet.
Ça, accessible.
Il ouais. n'y ben, avait pas beaucoup d'autres moyens, en effet, ouais. de communiquer longuement sur le sujet. On a reçu des livrets dans les boîtes aux lettres aussi, la plupart
oui,
des gens.
Vrai, ouais. Dans les journaux, beaucoup aussi, dans les
exact.
Journaux locaux, par exemple.
Ils faisaient leur travail, en effet, de communiquer avec les citoyens.
Ouais.
Et en fait, c'est sûr que moi, ici, je vais parler des guides auto-soins en santé mentale.
Oui.
Donc, le concept existait avant la COVID. C'est un concept qui vient principalement d'Angleterre et d'Écosse et qui est déjà bien appliqué aux États-Unis pour la santé mentale. Il est appliqué au Québec pour la santé mentale, pour... Pourquoi d'abord? On peut se dire, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un guide auto-soin pour la santé mentale?
Donner une, des alternatives, peut-être, parce que les gens ont besoin des fois de solutions qui sont pas, qui passent pas juste par la médication puis juste par les traitements traditionnels.
Bon, c'est certain que ça va dépendre de la gravité de la maladie mentale, mais on sait aussi qu'on a une pénurie de personnel qualifié. Donc, c'est certain qu'en attendant de voir un psychologue, ça peut aller de 6 mois à 24 mois,
ouais.
En attendant de voir un psychologue ou un autre type d'intervenant, un professionnel de la santé, ou outre qu'une personne à l'urgence, au CLSC, on peut communiquer avec nous. Donc, selon l'évaluation de l'intervenant, il va vous dire, bah, écoutez, je vais communiquer avec vous et je vais, admettons que ce soit un trouble de l'anxiété, la personne va recevoir un guide auto-soins sur l'anxiété, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Donc, on explique ce que c'est l'anxiété, les formes que prend l'anxiété. On explique comment est-ce que nous-mêmes, on peut surveiller cette anxiété et se dire, mais là, c'est trop, et quelles sont les solutions? Donc, c'est vraiment comme un système de suivi, comme un journal de bord un petit peu, où on va prendre soin de soi. Il est certain qu'idéalement, il faut que ça aille avec une thérapie ou un suivi par un professionnel. Mais ce qui est mis en avant pour le moment, c'est qu'il y a un manque. Et donc, il y a des avantages à ce qu'il y ait cet outil-là pour les malades, plutôt qu'il n'y ait rien du tout. Donc, qu'est-ce qu'il a comme avantage, ce guide d'auto-soin? Je vais continuer sur les troubles de l'anxiété, par exemple.
Ouais.
Si... ça va nous permettre de mieux nous connaître, déjà. On va savoir, tiens, c'est quoi l'anxiété? Oh, il y a X% de la population qui souffre. Oh, je ne suis pas toute seule. Qu'est-ce que c'est? Comment, quelle forme ça va prendre? Est-ce que moi, j'ai une forme plus aggravée ou est-ce que c'est fréquent chez moi? Je vais connaître mes forces et mes faiblesses pour, dans le fond, évaluer mon anxiété et vivre mon anxiété au jour le jour.
Un peu ce qu'un professionnel dirait, peut-être dans une première rencontre pour... dédramatiser la chose. Donc, finalement, il y a un bout de chemin qui est fait. Comme tu dis, manque de gens, manque de personnel médical ou de toutes sortes. Là. Ça permet au moins aux gens de ne pas rester avec rien. Ils ont un peu une petite piste. Là.
De ne pas rester seuls dans l'attente.
Oui.
Et donc, à ce moment-là, ils peuvent un peu plus savoir qu'est-ce qui provoque mon anxiété. Qu'est-ce qui l'a fait diminuer, par exemple? Et donc, essayer d'être bienveillant avec soi-même et de ne pas se mettre dans des situations qui vont provoquer et de diminuer ainsi notre anxiété jusqu'à ce qu'on pourra prise en charge par un professionnel.
Ouais.
Donc, c'est important, je disais, force, faiblesse, se connaître, ça, ce sont des avantages. On va aussi connaître la maladie. C'est une maladie, donc quelles sont les causes? Quels sont les soins qu'on va peut-être m'apporter plus tard? Est-ce que j'aurai peut-être des médicaments aussi? Est-ce que j'aurai juste une thérapie ou j'aurai les deux? Je vais lire là-dessus. Il y aura aussi des références. Donc, je peux continuer à lire sur le sujet. Et moi, je pense que c'est un avantage pour un suivi de maladie mentale de type une dépression, de l'anxiété, etc. Mais bon, moi, je ne suis pas du tout psychologue. Hein, mais je trouve que ça peut être intéressant pour des suivis. Puisqu'on sait que s'il y a eu moins, il y a moins d'urgence et que le plus grave est passé, on peut garder un suivi par soi-même si on en est capable. C'est peut-être intéressant à ce moment-là, le guide d'auto-soin.
Il y a peut-être une partie de la population qui ça va bien aller avec ça, puis il y en a peut-être d'autres que ça ne fera pas, mais au moins ceux qu'on aura aidés, ben, ça sera ceux de moins qu'on aura à... Dans le fond, ça va quand même avoir aidé une bonne partie de gens.
Ça va aider des gens. Et là, j'en arrive aux limites de ces guides.
Ouais.
Mais avant ça, je voudrais dire que pour le moment, au Québec, il y a quand même 5 SUS qui testent les guides auto-soins en santé mentale au Québec. Et donc, on va un petit peu laisser couler, voir un petit peu ce qui se passe, quel va être le retour face à cette aide apportée.
Un peu des projets pilotes qui sont essayés. Quoi.
Voilà, bon, les guides en santé mentale, les guides auto-soins en santé mentale existent depuis X temps, mais je dois dire qu'une initiative jumelée comme ça de 5 SUS, à ma connaissance, je n'étais pas au courant. Et c'est surtout que c'est, disons, le nouveau gouvernement qui met ça en place pour le moment, parce qu'il y a avec... l'épidémie de la COVID, il y a beaucoup de problèmes de santé mentale qui émergent chez des gens qui n'en avaient pas ou même ceux qui en avaient, ça s'intensifie. Donc, c'est sûr qu'il faut trouver des solutions parce que la structure n'est pas faite pour un nombre limité de personnes. Ouais. Et surtout, l'explosion qu'il y a pour le moment des problèmes en santé mentale. Donc, quand on parle de limites, c'est certain que, comme tu disais, tout le monde ne va pas être capable de suivre. Quand on est déprimé, quand on est hyper anxieux, commencer à se dire tous les matins, je prends mon petit guide et je coche et je fais ci et je fais ça.
On n'a peut-être pas le goût, tout à fait. Non,
j'en doute beaucoup.
C'est ça. Certains vont pouvoir le faire, mais c'est ça.
Certains qui vont déjà un peu mieux ou qui sont capables de ça parce que leur dépression ou leur anxiété se manifestent différemment que une léthargie ou trop d'énergie ou plus capable de prendre un carnet qui, en fait, nous renvoie notre maladie dans la face sans aide extérieure. Donc ça, je pense qu'en effet, il y a une limite par rapport au type de patient à qui ça va convenir. Et puis aussi, attention, moi je parle ici de capacité de lecture, de compréhension et d'introspection à un niveau quand même relativement moyen. Donc tout le monde n'est pas capable de lire des phrases longues et complexes sur un sujet de la sorte, sur la santé. Donc il y a des gens qui vont simplement pas être capables intellectuellement aussi de prendre soin d'eux-mêmes via un guide d'auto-soin.
Il faut que ça soit très bien fait. Je suis certain que c'est très bien fait, mais en même temps...
Oui, j'en ai déjà vu plusieurs. Hein. Je donnerai des références à la fin de la chronique. C'est extrêmement bien fait, mais on ne peut pas... C'est impossible de pouvoir rejoindre tout le monde. C'est simplement impossible.
Ouais.
Une autre chose que je dirais comme limite, c'est est-ce que c'est un début... Il y a déjà une déshumanisation, je trouve. Parce que quand on arrive en urgence ou quand on arrive dans un CLSC et qu'on est dit « il n'y a pas de place avant X temps » et qu'on est presque en crise, c'est sûr qu'on ne se sent pas un être humain digne de ce nom dont on va prendre soin. Je trouve qu'on nous donne une liste et il faut se débrouiller dans la liste. Mais quand on ne voit pas bien, rien que passer un coup de téléphone, c'est toute un challenge. Donc, je pense qu'ici, il faut prendre ça vraiment avec des pincettes et faire très attention au côté humain, à l'oreille, parce que quand on ne voit pas bien, c'est quoi qu'on a besoin. Ce n'est pas comme une maladie physique non plus. C'est sûr qu'on doit prendre soin de nous si on a la COVID ou si on développe, je ne sais pas, si on se casse le bras, c'est sûr qu'un guide auto-sain, ça ne va pas faire l'affaire. Mais je veux dire, il est important ici qu'on se rende compte que la santé mentale a droit au même traitement que la santé physique. Et ce n'est pas parce que l'effet n'est pas vu sur un visage immédiatement ou sur une jambe ou Dieu sait quoi d'autre, qu'il n'y a pas un grave effet qui est présent et on doit en prendre soin. Donc, je pense que les gens ont besoin d'oreilles attentives et pas que... C'est bien qu'il y ait des lignes d'entraide, mais pas que ça. Ils ont besoin d'intervenants en face à face.
D'abord, je dirais, c'est ça. Ils ont besoin de quelqu'un qui les comprend, qui les écoute, c'est ça,
Voilà. Quand on est en début de problème, c'est vraiment capital, je trouve.
Pas vraiment.
Ma question, c'est ce que j'ai un petit peu développé avant, c'est je me dis, mais est-ce qu'on ferait un guide comme ça parce qu'il y a des... On s'entend que toutes les maladies mentales ne sont pas potentiellement mortelles. Mais il y en a qui ont des potentiels importants au niveau de la mortalité. Donc, est-ce qu'on ferait ça avec une maladie pour la santé physique où il y a une mortalité potentielle? C'est juste un petit débat comme ça qu'on peut lancer. On peut se poser une question là-dessus et y réfléchir. Est-ce qu'on peut se demander aussi, tiens, est-ce que ça va devenir la norme? Est-ce qu'ils vont quand même réussir à augmenter le personnel en santé mentale ou est-ce que ça va devenir une norme comme c'est un petit peu le cas plus en Écosse et en Angleterre de ce que je peux connaître et donc c'est vrai que sont limites.
Un peu un libre-service de dire servez-vous, aidez-vous puis c'est ça, effectivement ça peut être dangereux ça peut être inquiétant de savoir si est-ce que ça va devenir une norme comme tu dis. Ouais.
C'est ça et certains, ce que j'aurais encore à dire à ce sujet-là, c'est que un guide peut fonctionner pour une personne et pas du tout pour une autre.
Ouais.
Donc ça, c'est pas que c'est mal fait. Au contraire, je trouve que de les avoir lus, je trouve qu'il y a un énorme travail là derrière. Mais c'est disons que c'est complémentaire, je trouve, à quelque chose qui serait un face-à-face et que si ça allège un petit peu le réseau des psychothérapeutes et des psychologues, ça peut être intéressant en effet. Pourquoi pas, si ça dégage un petit peu de la tranche horaire chez les psychologues. On peut se poser des questions aussi sur les gens dont l'état empire et qui ne sont pas capables d'aller en parler. Mais je pense qu'il y a des gens comme ça aussi qui, même avec un intervenant, même avec un psychologue, ne réagissent ne serait peut-être pas capable non plus. Je ne veux pas jeter la pierre à l'un ou à l'autre, mais je trouve que il faut y réfléchir.
Et probablement que les personnes pour qui ce guide auto-soin ne fonctionne pas, il y a toujours le recours de dire on appelle la ligne 811, Info Santé. Donc, quelqu'un qui va vraiment pas bien, je pense qu'il ne va pas être laissé à lui-même. Là.
Non, il y a les urgences psychiatriques de tous les hôpitaux de Montréal.
Oui,
les gens peuvent toujours appeler aussi le 911.
Ils ne sentent vraiment pas bien.
Et s'ils ne sont pas capables de faire autre chose comme numéro, quoi, ça leur paraît trop compliqué d'attendre 1h45 peut-être à une ligne ou qu'on les renvoie d'un endroit à l'autre, qu'ils ne sont plus capables, ça veut dire qu'ils ont vraiment besoin d'une aide immédiate, ils peuvent faire le 911. Sinon, en effet, il y a tous les numéros. Le 811 dont tu parlais.
Et terminant, je pense qu'Antoine, on va encore mettre les liens sur notre site. Là, toujours, on a une section dans le site antenne.qc.ca à mentionner à Folie douce. Il y a plusieurs ressources, en fait, qu'on va pouvoir mettre.
Il y a plusieurs ressources. C'est certain que je vais vous donner le téléphone d'entraide si vous avez besoin d'une aide urgente. Mais sinon, dans les SUS de Montréal, vous pouvez trouver aussi en ligne, vous mettez guide auto-soin au pluriel en un mot, et vous mettez ou dépression ou anxiété, vous allez trouver des guides aussi si ça vous intéresse.
D'accord, mais merci beaucoup Catherine pour cette chronique donc, sur les auto-soins. Donc merci.
C'est bien connu, on dit que pour leur plaire, faut être joli, comprendre qu'il faut se taire quand on n'est pas du même avis. Et j'ai porté quelques jugements sur des bribes à quelques moments pour finalement en comprendre que je ne peux en faire autant. T'es belle, c'est ce qu'on a toujours dit, mais juste quand tu souris. Que l'on est enfant, au fil des films et des romans, on doit se faire emmener par un prince pour être délivré. Et j'ai porté quelques jugements sur ses contes, mais sur ses moments, notre histoire n'est pas en jeu quand on est libre d'aimer qui on veut. T'es belle, c'est ce qu'on a toujours dit, mais juste quand tu souris, pourquoi? C'est toujours un non-dit que pour être aimé, faut être soumise, t'es conne. Si tu restes en silence, t'es folle. Si tu prends la parole, mais moi, je sais ce que je veux devenir, c'est sur mes termes que je veux.
La santé mentale, c'est à force d'en parler qu'on cessera d'en parler. Vous êtes à l'antenne de Folie douce.
Nous poursuivons avec l'espresso allongé. Pierre, tu nous parlais plus tôt dans l'émission des enfants hypersensibles. Tu avais mis la table, en fait. Mm-hmm. Il y a beaucoup de choses encore à y comprendre.
Oui, c'est d'après un article qu'on trouve sur Internet, sur le site psychologie.com. Ça s'appelle « Ces quatre comportements qui montrent qu'un enfant est hypersensible ». C'est écrit par, c'est d'après M. Saverio Tomasella, qui est docteur en psychologie, chercheur et écrivain.
Et ce que tu nous disais dans le premier bloc, dans le fond, souvent qu'on pense hypersensible, on pense à un enfant qui va faire des crises pour rien, qui va se mettre à pleurer, mais ce que tu nous amenais, puis on pense peut-être pas ça là, comme première idée, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup d'imagination.
Exactement,
très,
oui.
Très sensible, justement, mais dans le sens peut-être...
C'est plus dans le sens, créatif, le sens, je pense, de sensibilité.
Oui, c'est ça.
Qui n'est pas un défaut en soi.
Si c'est bien canalisé, oui. C'est bien encouragé, en fait, oui. Ça peut être très...
Parce que beaucoup d'artistes ont cette qualité. C'est, oui. Ça peut être vu comme une qualité, mais comme je disais un peu plus tôt dans l'émission, il faut connaître le mode d'emploi oui. Avec ses enfants-là.
Parce que des fois, on entend hypersensible, puis en tout cas, la première idée oui. Qui me venait, c'est bon, ça va être ça arrive des enfants qui sont très oui. Sensibles, là, oui. Qui vont réagir oui. Vite. Oui. Mais, pas nécessairement ça.
Alors, je poursuis ma lecture de cet article. On parle ici de Samira, qui vient d'avoir 10 ans. Elle confie « J'ai peur que mes parents ne rentrent pas des courses ou qu'ils ne reviennent jamais. » L'enfant qui se sent différent peut être réellement rejeté par ses camarades à l'école ou par ses frères et sœurs. S'il ne l'est pas, il peut craindre que cela ne devienne une réalité et que ses parents, la trouvant trop difficile à vivre, ne la délaissent ou l'abandonnent. Lorsque cette vieille angoisse de l'abandon refait surface, l'enfant a particulièrement besoin qu'un adulte de confiance soit présent et s'occupe de lui. Il lui consacre du temps et lui témoigne une affection sincère et prenne le temps de parler avec lui. La terreur d'être délaissé ou rejeté sera d'autant plus puissante que l'enfant manque de marques d'affection réelles et de paroles sincères. On voit qu'avec un enfant hypersensible, tout peut prendre de très grandes proportions.
Oui, oui. Ouais.
Un troisième comportement typique des enfants hypersensibles, c'est la hantise d'être malade ou fou. Des enfants qui sont très sensibles sentent bien qu'ils ne ressemblent pas tout à fait aux autres enfants. Il leur arrive souvent de se demander s'ils ne sont pas anormaux, malades ou même fous. Hélène continue en disant « J'étais toujours en décalage, jamais comprise. Je ne me comprenais pas bien moi-même et on se chargeait bien de me dire que j'étais différente. Je voyais que je n'étais pas comme les autres. Le problème, c'est que je pensais être folle et que l'on ne m'a d'ailleurs pas dit le contraire chez moi. » Pour certains enfants, la hantise de la folie se manifeste en même temps par de forts questionnements face aux autres, à leur regard, leur jugement, leur critique, etc.
Dans le fond, c'est un peu...
C'est pas drôle.
Non, c'est pas drôle. Dans le fond, c'est un peu l'enfant. Des fois, s'il n'arrive pas à verbaliser ça, souvent, ses parents ne seront peut-être pas au courant. Fait que ça va être comme dans son monde intérieur. Elle va vivre ça, le ou l'an.
On a l'impression que ça prendrait des parents qui, eux aussi, ont beaucoup de sensibilité.
Ou qui... c'est difficile à savoir, des fois, parce que le jeune va peut-être dispenser, bien, tout le monde est comme ça, ou il ne sera pas porté peut-être à en parler, puis c'est là que ça devient... on ne peut pas vraiment l'aider à ce moment-là.
Ouais. Le quatrième comportement typique des enfants hypersensibles, ce serait la difficile différence, en fait. Accepter les différences d'autrui et se sentir serein face à la diversité exige de nous un long cheminement. Plus grand, les enfants très sensibles peuvent exprimer des mouvements intérieurs propres à chaque être humain, mais que nous adultes ne percevons pas aussi clairement qu'eux. D'une certaine façon, ils parlent comme des enfants très jeunes. Ont-ils gardé la candeur et les étonnements de leur prime enfance? Les adultes se demandent comment agir avec un enfant très sensible pour le réconforter. En fait, et tout simplement, il est souhaitable de l'écouter et de lui parler avec tact et délicatesse, en faisant preuve de patience, particulièrement pour respecter son rythme et s'ajuster à sa capacité à recevoir nos propos. Capacité différente d'un enfant à l'autre ou d'une période à l'autre. L'adulte qui agit avec attention et bienveillance et, lorsqu'il le peut, avec légèreté et humour, en évitant de juger l'enfant, ses propos, ses actes ou ses attitudes, en le félicitant ou en l'encourageant, calme ses inquiétudes, tout en lui redonnant confiance.
Ouais.
Alors, on voit que c'est pas facile d'élever un enfant hypersensible.
La présence, ça reste toujours la clé parce qu'il y a beaucoup de parents qui manquent de temps, mais l'investissement de temps qu'on fait auprès des enfants, je pense que c'est jamais perdu. Là.
Mais toi, tu as élevé 3 enfants.
Ouais.
Est-ce qu'il y en avait des hypersensibles là-dedans?
Pas vraiment, je crois, mais je pense que j'étais pas mal à l'écoute. Fait que je pense pas qu'il y en avait tant que ça. Ben, je pense pas que qu'il y en avait tant que ça. Je pense pas que ça. Je peux pas déceler ce que tu décris. Ouais. Là, j'ai pas vraiment vu ça dans mon, dans ma, dans mon quotidien, moi.
Peut-être qu'il y a des enfants, sans être hypersensibles, peuvent avoir une certaine sensibilité vis-à-vis certains aspects de la vie ou de la croissance.
Ouais.
Mais pas assez pour qu'on les appelle des hypersensibles
non, c'est
complètement.
Ça. Puis souvent, tu sais, comme on le dit souvent, c'est un cliché, mais tu sais, il y en a des livres, mais en général, on apprend sur le tas.
Mm-hmm.
Fait que moi, je reste encore, je pense encore, mon idée, c'est de dire soyons le plus attentif possible, soyons le plus présent possible, mm-hmm. puis essayons de communiquer le plus possible. Fait que s'il y a quelque chose, je me dis que ça va ressortir. Puis,
ouais. Mais je regardais, Yvan, dans cet article, on donne des exemples et je pense que c'était toutes des filles.
Oui, je pense. Hein, c'est sûrement qu'il y a des garçons
oui,
aussi. Qui, parce que c'était pour l'exercice, pour
moi, je dirais que oui, ça doit sûrement. Être pareil.
Oui, en tout cas, bien, merci beaucoup pour le sujet. C'est un sujet quand même auquel on peut s'intéresser. Les enfants hypersensibles, donc à Folie douce.
c'est encore meilleur la deuxième fois. Écoutez-nous en reprise sur YouTube en cherchant Folie Douce Radio.
Pour conclure ce rendez-vous de Folie Douce, on va nommer les chansons, Pierre, qu'on a entendues au courant de l'émission cette semaine.
Exactement.
En début d'émission, on écoutait Soyons-nous.
De Laurence Saint-Martin avec King Melrose.
On a pu entendre Bonjour, merci.
De Arcadian.
Sois poli, finalement. On a écouté dans la deuxième demi, T'es belle.
De Cœur de pirate.
Et à l'instant, le pianiste d'Égard.
De Maël.
Oui, voilà. Merci pour ton choix musical et ta mise en onde.
Merci, mon cher.
Et merci aussi pour tes blocs espresso et allongés où tu nous as parlé des enfants hypersensibles. Notre invité en début d'émission, qui est collaborateur aussi, Jean-François Plouffe d'Action Autonomie, nous a parlé d'autorisation judiciaire de soins, surtout le point de vue des personnes. On avait déjà parlé de ce sujet-là, mais c'est important de s'y attarder au niveau de la personne qui est touchée par ça. On avait notre collaboratrice aussi, Catherine Stassin, en début de deuxième demi. Elle nous a parlé des guides auto-soins, les avantages et limites. C'était donc le menu de Folie Douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie Douce. Au revoir.